Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
And please be careful when opening the overhead bins as items may have shifted and could fall out. You may now switch on the mobile services on your phone again.
Haló, haló, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání.
Bienvenue à Prague. Vítejte v České republice. Bienvenue en République tchèque.
Ahoy, Suivez le guide vous invite à découvrir la République tchèque. Prague fait partie des destinations européennes touristiques majeures et il y a foule sur le pont Charles en plein été. Le reste de ce petit pays de 79 000 km² demeure plutôt méconnu des visiteurs étrangers et pourtant, les attraits touristiques sont nombreux. Nous en avons découvert quelques-uns à la fin des années 10, mais il manquait Prague. Voici la session de rattrapage. Le 1er mai 2004, la République tchèque devient membre de l'Union européenne. Prague nous rappelle le printemps de Prague. Le nom de Jan Palach est connu de tous. Cet étudiant en histoire qui s'est immolé par le feu, place Venceslas, le 16 janvier 1969. 2018 marqua le centenaire de la naissance de la Tchécoslovaquie, dissoute en 1992, une dissolution surnommée divorce de velours.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Pour ce troisième Suivez le guide enregistré à Prague en 2023, nous ne serons pas dans le cœur historique, mais dans le quartier de Prague 7, à 3 km au nord-est du fameux Pont Charles, que nous prendrons dans une prochaine émission. Et avant le Pont Charles, nous marcherons à la rencontre de Jean-Charles Berger, le seul chef français de la capitale tchèque, que nous rejoindrons dans son restaurant, Bistrot à Table. Jean-Charles Berger qui, fin décembre 2023, avait partagé sur les médias français son émotion après la fusillade meurtrière au lourd bilan de 14 victimes le 21 décembre dans l'université Charles de Prague. Débutons cette nouvelle balade pragoise avec l'une de nos guides, Miroslava Eliashova.
Dobrý den, já se jmenuji Mirka Eliášová a vítám vás v Praze 7, v Holešovicích a na Letné, abych vás provedla těmito čtvrtěmi. Soyez le bienvenu ici à Prague, le quartier municipal Prague 7. Je m'appelle Miroslava ou Mirka Eliášová et j'aimerais bien vous montrer et parler un peu de quartier Holešovice et Letná, qui sont les quartiers artistiques émergents et d'intérêt pour les gens qui s'intéressent à l'art et aux choses nouvelles qu'on peut montrer hors le commun à Prague.
Prague, c'est une ville qui monte, on monte un peu, hein, à Prague, c'est pas une ville plate, Prague.
Non, pas du tout.
Pas du tout, hein.
Il y a
des collines.
Il y a plusieurs collines, on dit qu'il y a 7 collines sur lesquelles Prague était fondée. Il y a Letna, en fait, le nom Letna, c'est même le nom d'une colline Letna.
Alors Letna, nous, encore une fois, on pense au volcan en Italie, Letna, mais Letna, c'est attaché. Letna, c'est un mot, Letna.
Letna, un mot.
Bon, c'est peut-être à nous.
On doit attendre c'est vert, maintenant. Il y a aussi beaucoup de gens jeunes qui habitent ici à Letna, au Holešovice, aiment bien utiliser le vélo.
Il y a des pistes cyclables, non?
Il y a même la piste pour les cyclistes, mais on ne peut pas comparer avec Amsterdam ou autre ville.
Donc toi, tu as un vélo?
Oui, j'ai un vélo, mais je suis un peu paresseuse. Je préfère d'aller à pied, si c'est possible, je vais à pied. Ou, large distance, je préfère de tram ou de métro.
Ouais. Mmh.
Mais il y a des gens qui préfèrent le vélo
100%
aussi.
100% vélo.
Je suis un peu paresseuse.
Твои глаза меня свели с ума, дурманили, покой разум отобрали. Постой, паренек, удели мне часок, удели часочек ласковый, удели часочек миленький.
Là, par exemple, il y a encore une façade. C'est une très belle façade, mais elle n'a pas été repeinte comme les autres. Hein.
Quand j'étais petit, je pensais que tous les bâtiments, qu'il y a beaucoup de bâtiments anciens, mais ils sont comme ça, avec les façades noires.
Oui. À l'époque, sous influence communiste, est-ce que les bâtiments étaient gris ou ils étaient en couleur?
Ils étaient dans le stade plus ancien parce que le pays...
Il n'avait pas d'argent pour...
Pour le reconstruire. Alors, c'était, on pourrait dire, gris. Ou comme ça, comme tu vois maintenant, alors avec les façades délaissées.
Les façades délaissées. Mais sinon, c'est aussi un magnifique immeuble. Hein. Mais il y a eu, je suppose, depuis des gros travaux de rénovation.
De rénovation. Alors ici à côté, il y a déjà le bâtiment qui est tout reconstruit et avec cette couleur intense, ouais, jaune ou orange.
C'est marrant parce que quand on regarde, on voit une enfilade comme ça de ces immeubles très très beaux. Et hop, il y en a un au milieu chaque fois qui est un peu triste. Hein.
Pour moi, ce n'est pas triste.
Il est gris. Il est gris.
J'aime la patine. Je pourrais dire que c'est la patine. Pour moi, c'est romantique. Pour moi, c'est romantique. Je dirais... Et j'ai l'envie de trouver quelque chose d'ancien, peut-être quelques pièces des habitants anciens. Et quand il y a le bâtiment qui est tout répandu, tout parfait, j'ai l'idée que maintenant, c'est difficile d'entrer dedans parce que tout sera bien gardé et seulement pour les gens qui se le peuvent permettre, seulement peut-être pour les résidents.
C'est cher les loyers là, par exemple?
Je pense que si c'est maintenant dans les mains privées, ils vont chercher la manière comment le louer de manière chère. Si on peut, on le veut faire.
Ce bâtiment gris avec de l'herbe qui pousse un peu sur les...
Peut-être il y a encore des habitants anciens, peut-être il y a une dame...
Peut-être qu'il y a des squats.
Peut-être il y a des squats, peut-être il y a un monsieur...
qui vit là depuis longtemps.
Oui, exactement. Ou une dame qui est encore ce suivant. Peut-être, mais ce n'est pas vrai, à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais dans ma fantasy, oui. Ou peut-être dans les années 60.
Qui a vécu le printemps de Prague. 60,
qui a vécu le printemps de Prague. Pour moi, c'est plus
intéressant. Donc tu vas plutôt entrer dans celui-là que dans le bel immeuble.
J'aimerais l'explorer.
Et si tu dois dire, Miroslava, le charme de Prague, le premier charme de Prague, c'est quoi?
Le premier charme de Prague, c'est l'air de printemps, l'atmosphère douce, beaucoup d'éléments du Moyen Âge, encore préservés, pas autant mélangés avec les éléments du 20e siècle, avec les éléments modernes, encore avec des gens qui ont la calme, pour prendre les choses de manière plus relaxée. Je dirais Prague n'est pas encore une ville extrême. C'est encore mesure humaine.
Taille humaine.
1 300 000 habitants.
Alors, on va aussi parler de ça tout de suite, d'un autre mystère pour moi, puisqu'on est devant une entrée, on peut le remarquer. Est-ce que j'arrive au 329 ou est-ce que j'arrive au numéro 3?
Oui,
sur tous les bâtiments, il y a les deux. Il y a une plaque rouge et une bleue.
Il y a la plaque rouge et la plaque bleue. Oui, c'est ça. La plaque rouge, ici, avec nom de quartier Bubenec, Prague 7. J'ai l'impression... je ne suis pas sûre, mais je pense que 3729, c'est la maison numéro 3729, comme était chronologiquement enregistrée dans le catastre des immeubles. La plate bleue avec le numéro 3.
Rue de l'Académie.
L'Académie d'art, ouais. C'est le numéro 3. La situation dans la rue.
Si le courrier est déposé dans la boîte aux lettres, l'adresse, ce sera 3 rue...
On peut mettre le 2 ou je crois que si on met un numéro seulement, ça arrive quand même.
Ah oui. C'est un peu bizarre.
C'est typique de toute la République tchèque, toutes les maisons ont 2 numéros.
Mais toi, alors, par exemple, je ne sais pas où tu habites, mais tu dis j'habite au...
Par exemple, si je prends le taxi, je veux aller chez moi, je dis le 2 numéro parce que c'est plus facile pour le chercher dans le système des rues et des maisons.
Mais ça, c'est partout en République tchèque?
Oui, oui. Je suis sûre que c'est dans toute la République tchèque, les maisons ont 2 numéros, officiellement.
Я гостил у друзей задушевных в милой Праге в соседней стране. Добрый город и юный, и древний, да чего ж ты понравился мне? Стрелы башен вздымались, как в сказке, и сливались в единый поток.
чешской речи певучая ласка и московской родной говорок. Ты в душе навек останешься.
Nous sommes dans la rue Malička. Bubenec Prague 7, c'est la rue de Peintre, qui fait ici le côté avec la rue Académie, chez l'Académie d'Art. Et nous avons l'Académie d'Art devant de nous.
Donc ça, c'est un gros bâtiment blanc.
Art nouveau, reconstruite, voilà, blanc. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ce n'était pas encore reconstruit comme maintenant. Très joli ici le jardin, où il y a le petit bar.
Tout le monde peut aller ?
Je pense que oui,
oui c'est
mais c'est vrai que c'est presque le domaine des étudiants d'art qui prennent des bières et des autres boissons. Et ils mangent des panini ou la baguette à la française dans cette bar.
C'est agréable, hein. ils ont de la chance, les étudiants d'art. Et puis c'est un gros bâtiment aussi. Hein.
Ouais. Il y a aussi un jardin de l'autre côté. Ils organisent des expositions d'art. Même dans le jardin. Et c'est connecté avec cette parc très grande, Stromovka, fondée au Moyen-Âge par le roi.
Ouais. Et alors, il y a une unité au niveau de la hauteur des immeubles, ils ont
parce
tous la même hauteur.
Parce qu'ils ont été construites à la fin du 19e ou début du 20e siècle.
J'en vois, c'est 1912 par exemple, je peux lire.
Oui. Exactement, avant de la Première Guerre mondiale. Imaginez,
avec un café en dessous, au rez-de-chaussée.
C'était l'époque heureuse, parce qu'on n'a pas encore su de le futur. Mm-hmm. On ne se pourrait imaginer rester dans l'Empire autrichien, austro-hongrois. Et je dois dire, il y a des gens aussi parmi mes amis comme ça, qui ont dans la fantaisie l'idée commence, la situation serait si, en effet, la Première Guerre mondiale n'était pas passée.
Ce serait encore l'Empire, peut-être.
Oui, exactement.
Et donc, ils sont nostalgiques de ça?
Il y a des gens qui sont nostalgiques partiellement de ça, parce que aussi on demande... est-ce que vous aimeriez vraiment le retour de la monarchie? Seulement une petite partie de la population tchèque sont à faveur de la reconstruction de la monarchie. Mais oui, je connais des gens qui sont nostalgiques de l'époque de ce temps-là et aussi de comment les choses ont fonctionné. Peut-être qu'ils pensent que dans ce temps-là, on n'était pas autant corrupté.
De corruption.
La corruption.
Corrompue.
Et on voit les défaits et les problèmes qu'on a maintenant. Et alors, avec la nostalgie, on cherche le temps perdu, en pensant que c'était peut-être mieux.
Le fameux « c'était mieux avant ».
Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une traite humaine de penser comme ça.
Ouais. Do nebe tyčí se stovka věží, doprava stojí, když lehce sněží. Jo, u nás v Praze je sice draze, ale skvělé. A když tě to neba, tak si jdi třeba domů, hele. U vás před barákem máte ovce, my zase dílery a bezdomovce. Tohle je Praha, tohle je Praha. U vás dospělí chodějí do práce.
Ça, c'est un quartier bobo ici, ou mais un peu bourgeois et puis un peu artiste.
J'ai un ami qui est un peintre qui a étudié à Brno scénographie, qui est un peintre émergent, qui aussi organise le festival Wagner, qui aime beaucoup se vestir avec la chemise de couleur.
Il a le profil.
Il a le profil de bobo.
Et il habite par ici?
Il a son atelier. Ici, il y a encore quelques années avant. Je ne sais pas maintenant, je suis pas.
Donc c'est un quartier bobo. Et c'est juste pour faire le jeu de mots, mais un quartier bobo, bourgeois, bohème. Et s'il y a bien une ville où on peut avoir un quartier bourgeois, bohème, ben, c'est Prague, parce que c'était la capitale du royaume de Bohème. Donc ailleurs, ce n'est pas des vrais bohèmes. Ici, on est vraiment au cœur de la bohème.
Hein. Oui, Prague, c'est le cœur de la bohème. Nous sommes les Tchèques, nous sommes les Bohémiens. Je suis les deux.
Vous êtes les bohémiens, mais en France, c'est péjoratif, bohémien.
C'est péjoratif.
Ben, oui, c'est...
D'accord. Mais... Nous avons le cigane. Comme j'ai compris le mot.
C'est cigane.
C'est pas la même chose.
Oui, c'est ça. Mais bohémien, c'est plus un mot qu'on dit vraiment. Bon, il y a le côté bohème, mais quand on dit bohémien, on pense davantage à ces populations gitanes, tziganes, donc qui sont non sédentarisés, qui sont sur la route.
Ici, peut-être encore il y a quelques 20 ans, ils ont vécu des tziganes ici, peut-être. Pas maintenant, parce que les immeubles sont plus chers et ils n'ont plus d'argent pour se le permettre.
Ouais. Mais ce qu'on pourrait dire en France, on disait « Ah, il est très bohème », c'est un compliment. Mais si on dit à quelqu'un « tu es un bohémien », c'est une critique.
Et nous avons le mot en tchèque « bohème ». Il est bohème et ça veut dire quelqu'un qui est artiste et vit sa vie à la manière artistique.
Une vie de bohème et il y a l'opéra de Puccini,
pour
la bohème.
Il vit pour l'art. Ouais.
La bohème, Puccini, c'est ça.
Aussi.
Aussi.
Mais la population en général, il s'appelle tchèque. Nous sommes la tchèque, nous parlons la langue tchèque, la langue slave, qui originalement est unie, vient de la même lieu comme la langue russe ou la langue polonaise ou la langue serbe. Mais avec la convivance avec les Allemands, parce qu'il y avait beaucoup des Allemands, une tierce partie de la population chez nous, au début du XXe siècle, c'était la population qui parlait allemand. Alors, avec cette convivance, qu'on était très enrichi par cette culture allemande et vice-versa.
Cap, cap, to venku tajou ledy, jak z deště potokap a jednou naposledy. Lůže se rozstříkne, máš pláto pod nohama.
Dans le quartier de l'Etna à Prague 7. Du 7, nous passons au 6 pour rejoindre Jean-Charles Berger dans son bistrot à table.
This is Radio Prague, Czechoslovakia, the legitimate voice of occupied Czechoslovakia.
Suivez l'équipe en République tchèque.
Je vais vous laisser tout d'abord, Jean-Charles Berger, nous expliquer où nous sommes à Prague. Nous situer dans Prague, bon, déjà, nous ne sommes pas dans la ville vieille, nous ne sommes pas à proximité du pont Charles, on n'est pas dans la partie la plus touristique de Prague.
Non, pas du tout. Donc, on est dans ce qu'on appelle Prague 6, le 6e.
Oui, c'est ça. Je suis allé hier à Prague 7, et donc ici, nous sommes à 6.
Ici, nous sommes à 6. Donc, on va non loin du château de Prague, qui se trouvait à environ 800 mètres derrière nous. Mais on est dans le quartier résidentiel où en fait il y a peu de touristes, il y a beaucoup d'étrangers, mais qui sont des expatriés ou du personnel d'ambassade.
On est sur une hauteur, là, parce que moi je suis venu à pied, j'ai grimpé quand même.
Hein. Oui, exactement. Le centre-ville de Prague, Malastrana et la Plaza Vivi, c'est vraiment au fond de la cuvette. Et nous, on est en haut de la cuvette, donc on a un meilleur air et on est en meilleure santé que ceux qui sont au fond de la cuvette.
Ça, et donc ici, votre clientèle sont des Pragois de naissance ou d'adoption?
Ouais, il y a 80% de, on va dire, grosso modo 80% de Pragois ou de Tchèques, et les autres qui sont effectivement des gens qui ont adopté, Prague a adopté ou qui ont adopté Prague, je sais pas lequel.
Bon, c'est ce qui vous est arrivé aussi. Bon, vous êtes marié, votre épouse est Tchèque.
Et effectivement, est Tchèque. Nous avons deux enfants et qui sont de nationalité tchèque, mais qui parlent français aussi.
C'est votre épouse qui vous a amené à vivre à Prague ou vous travailliez déjà à Prague avant d'avoir rencontré votre épouse?
Non, en fait.
Pas du tout.
Non, je travaillais en Égypte. Hein.
Vous avez rencontré votre épouse en Égypte.
Exactement.
Et du coup, il y avait deux possibilités à ce moment-là. Si vous ne souhaitiez pas rester en Égypte, enfin, il y avait plein de possibilités. Le monde était à vous. Ou alors, en tout cas, les deux peut-être les plus évidentes, c'était
la France ou la République tchèque.
Oui, exactement. Et à l'époque, en fait, j'avais pas du tout envie de rentrer en France. Et quand on a été en vacances, en fait, tout simplement ici, et j'ai tout de suite adoré la ville de Prague. Et je me suis dit, pourquoi pas ici, en fait. Surtout que les Français, on peut dire, on est très bien, je dirais très bien vus. Ils aiment bien la culture française, les Tchèques. Ça a été assez facile pour moi, en fait, de me faire adopter.
Et après vous, je vais rencontrer un professeur de littérature passionné de la littérature médiévale française, moyenâgeuse. Donc, effectivement, il y a des passionnés. Concernant votre histoire, si j'ai bien compris, mais vos études ne vous menaient pas forcément vers la restauration. J'ai vu que vous aviez une maîtrise, analyse et politique. Enfin, vous avez fait des études à la Sorbonne. Ça ne mène pas forcément à la cuisine.
Hein. Non, mais en fait, la petite histoire, c'est que j'ai commencé avant. J'ai commencé avant, en fait, depuis tout petit. Je cuisinais, j'ai aidé ma mère et je suis d'une famille de cuisiniers. Mon oncle, c'est l'ancien chef du Ritz.
Avant Michel Roth, avant notre Mosellan, notre Michel Roth.
Oui, Guy Le Guay. J'ai commencé vers 8 ans où j'ai fait mes premiers...
Michel Roth est parti aussi.
Ouais, je sais, mais je l'ai même rencontré ici, à Prague d'ailleurs, au bistrot.
Il est venu chez vous ici?
Ouais.
On va faire une photo, on va lui envoyer.
Ouais. Et donc, je faisais mes week-ends, mes vacances, tout ça. Je travaillais au Ritz, j'apprenais la cuisine.
Et la cuisine du Ritz est belle, hein?
La cuisine du Ritz est très belle.
Plus grande que la vôtre ici.
C'est énorme. Ici, c'est tout petit. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la cuisine, mais d'un autre côté, j'avais pas de problème à l'école, j'aimais bien l'école et j'ai continué. Donc, j'ai une maîtrise d'économie et ensuite j'ai fait un troisième cycle à Dauphine et à une école d'ingénieur. Et j'ai plutôt étudié les mathématiques et l'économie appliquée.
Et vous avez travaillé en même temps l'économie. Bon, on se dit pour qu'une affaire tourne, peut-être ça sert, mais vous appliquez finalement l'économie à la gestion d'un restaurant. Avez-vous travaillé dans ce domaine-là?
J'ai fait d'abord de la recherche au centre de recherche de EDF. Ensuite, j'ai travaillé comme consultant pour des grosses entreprises. En fait, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 33 ans, pour dire la vérité.
Un âge fatidique, hein.
Exactement, 33 ans. Et ensuite, je suis parti en Égypte où j'étais dans la plongée sous-marine pendant quelques années.
Vous étiez déjà réorganisé, enfin changé de vie déjà. Un virage à 180 degrés.
Oui, je habite à ces virages-là. Moi, j'aime bien.
Vous les négociez, les virages?
J'espère, en tout cas, j'espère. J'espère. Mais c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique.
Vous lassez au bout d'un moment?
Il y a un peu de ça. Et puis, il y a aussi les événements qui font que parfois, il faut changer. Faut savoir changer de métier.
Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství. Žádnou vzpomínku, skládám si obrázek, kámen po kamínku, včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu, vlastníme doménu. Tak si nás rozklikni, svaz českej bohémů.
Des cuisiniers dans votre famille, aimez cuisiner, mais c'est autre chose que de cuisiner pour des clients. Hein.
Effectivement, un restaurant, on travaille, c'est différent. Le rythme, déjà, quand on travaille à la maison, cuisiner, c'est un hobby. Ici, en fait, c'est 15 heures par jour, tous les jours, donc c'est un autre rythme.
Pour bien reconnaître, si on a envie de continuer la plongée, la République tchèque, c'est pas le meilleur pays pour...
Non, c'est clair. Mais bon...
Il n'y a pas de côte. Je sais pas si on peut plonger dans la Moldau ici, faire de la plongée.
Non, ce serait une mauvaise idée. Mais il y a quelques lacs, enfin pas des lacs, mais des étangs artificiels où effectivement on pourrait le faire. Mais bon, moi ça m'intéresse pas, j'attends les vacances pour aller plonger.
Mais en revanche, quand vous vous êtes installé à Prague avec votre épouse, c'est là où vous avez décidé de vous tourner professionnellement vers la restauration?
Oui, en fait, en arrivant en République tchèque, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc j'avais pas du tout envie de retourner dans les métiers que je faisais avant, donc le consulting. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai cette base de cuisine et donc j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai ouvert au tout début une maison d'hôte. Une maison d'hôte avec une table d'hôte.
Hébergement et tout.
Hébergement, effectivement. Mais c'était en dehors de Prague. Et ensuite, j'ai ouvert un premier bistrot dans le centre, mais avec une toute petite cuisine. Donc ça ne me plaisait pas. Et puis c'était le quartier touristique. Et donc c'est...
Ça vous a gonflé au bout d'un moment?
Prague, avant...
Vu la densité de touristes...
Et encore, il y a 15 ans, c'était pire. c'était pire. Là, avec le coronavirus, quand même, il y a eu un gros ralentissement. Mais à côté du pont Charles...
Normalement, une personne de l'office de tourisme disait que normalement, c'est 9 millions de visiteurs par an ici à Prague.
Oui, oui, c'est ça. En fait, d'être promené sur le pont Charles, c'est...
C'est sportif.
C'est sportif, il faut y aller à coup de coude.
Il faut se frayer un passage. Ça veut dire être confronté à cette foule-là tous les jours.
Exactement. Donc, ce n'est pas forcément très, très agréable. Ce n'est pas les Prague, donc c'est des gens avec qui on ne peut pas faire vraiment de créer de liens. Et c'est pour ça que quand j'ai eu la possibilité d'ouvrir ici, où j'habitais, puisque j'habite juste en face.
Ah oui, d'accord. Vous traversez la rue. Et donc, c'est comme Emmanuel Macron avait dit, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, c'est votre cas.
Ouais, c'est comme ça, ou presque. Et en fait, donc, ça fait que je connais pratiquement tous mes clients depuis, sont des voisins, sont des amis, ou c'est devenu des clients habituels. Et donc maintenant, quand je me promène, même pour aller faire mes courses, je peux dire bonjour à tout le monde. Donc,
c'est une vie de quartier.
C'est une vie de quartier. C'est là aussi, c'est pour ça que j'adore cette ville de Prague. C'est une capitale. Mais c'est comme, je dirais, en France, certaines villes de province où ben, on se connaît, on se dit bonjour, on se salue, c'est très convivial, c'est agréable, c'est très courtois, c'est super.
Mais dans la vieille ville, il vous arrive d'y aller ? Sur le pont Charles, il vous arrive d'y aller ?
Il m'y arrive d'y aller lorsque des amis me visitent et qu'il faut que je fasse la visite.
C'est la punition ? Non, c'est quand même pas la punition.
Non, le centre-ville.
C'est magnifique.
Le centre-ville est merveilleux.
Je peux pas vous emmener à 6h du matin ?
Exactement. Il y a effectivement, peut-être pas 6h du matin, mais il y a certains horaires qui il faut éviter pour voir les grands monuments de Prague.
Mais bon, Prague, c'est exceptionnel, c'est une ville-musée. Mais là, on est dans un quartier de vie. Alors, ce n'est pas une ville-musée du tout ici. Et vous êtes, vous me le confirmiez, Jean-Charles Berger, juste avant qu'on enregistre, vous êtes le restaurateur français de Prague, le bistrot français de Prague. On ne peut pas mettre un pluriel là-dessus. Il n'y a pas des bistrots ou des restaurants français à Prague.
Non, donc je pense, sans exagérer, je pense que je suis le seul bistrot français avec un service en français, des cuisiniers français, dont moi-même. Malheureusement, je crois que je suis le seul maintenant ici.
Il y en a eu d'autres ?
Il y en a eu d'autres. Il y en a eu quelques-uns et qui ont fermé soit avec le coronavirus, soit aussi, puisque c'était des restaurants qui étaient plus gastronomiques, donc avec des prix type à la française et ça n'a pas forcément été adopté en République tchèque où il y a une culture, une tradition pour les repas du midi ou des choses comme ça où les gens ne se permettent pas de dépenser autant d'argent.
Diriez-vous que Prague est devenue, je ne sais pas si elle l'était, mais dans la période pro-soviétique, je n'imagine pas qu'elle fût une ville gastronomique, mais Prague est-elle aujourd'hui une ville gastronomique ?
Alors une ville gastronomique, pas encore, mais il y a de très gros efforts. En 15 ans, le nombre de restaurants de qualité qui se sont créés, c'est exponentiel. Et il y a maintenant, parmi les Tchèques, plein de cuisiniers qui sont très connus et qui sont des très bons cuisiniers. La gastronomie tchèque, elle a encore le poids de toute son histoire, donc des années de communisme, et donc qui est plus sur la quantité que la qualité. Mais ça change énormément. En 15 ans, les choses ont énormément changé. On peut voir d'ailleurs les bouchers. L'offre de viande qui est sur les étals a complètement changé. Avant, trouver une bonne viande, une bonne entrecôte, c'était pratiquement impossible. Maintenant, on trouve ça, pas partout, mais on trouve ça beaucoup plus facilement. Pour les poissons, c'est la même chose. Les fruits de mer. Les fruits de mer, il y a 15 ans...
Il n'y en avait pas.
Pratiquement pas. Ou alors, quand il y en avait, c'était la fête. Maintenant, nombre de restaurants proposent, comme moi, proposent à la carte. Des huîtres, des moules, des crevettes, tous les jours à la carte et toute l'année. Donc, et ça, je ne suis pas le seul. Il y a plein de restaurants le font aussi dans le centre.
L'offre dans les restaurants traditionnels, enfin si je regarde, et puis j'ai voyagé un peu en République tchèque, mais c'est assez récemment finalement, c'est assez limité. La diversité de plats est somme toute assez limitée. À part le goulash avec les... j'ai l'impression que c'est plutôt du pain, mais c'est plus subtil.
Ouais, c'est plus subtil et il existe différents types de knedlik. Ce
ne sont pas les quenelles auxquelles on est habitué chez nous, de pommes de terre, etc.
Non, alors en français, effectivement, dans les guides, c'est souvent traduit par quenelle, mais ça n'a strictement rien à voir.
D'où le problème, on attend des quenelles.
Non, non, c'est, alors là, c'est absolument pas des quenelles. Mais
c'est quoi alors?
En fait, il y a le knedlik de base qui est fait à partir de pain. Alors ça ressemblerait, je dirais, comme un pain de mie bouilli.
Ça fait partie de, enfin, on peut le mettre dans la catégorie de ce qu'on appelle les plats du pauvre, non?
Ah ben, ce qui est sûr et certain, c'était pour les Tchèques qui mangeaient le midi la viande en sauce et qui avaient besoin de grosses quantités. Donc là, on prenait les knedliks.
Il y avait peu de viande et beaucoup de pain.
Beaucoup de pain avec de la sauce ou des choses comme ça. Donc c'est vrai et ça reste comme ça. Et on trouve les knedliks, alors différents types de knedliks.
Les chefs passent par là aussi et puis ils peuvent les embellir, les knedliks.
Je ne ferai pas de commentaires.
Non, oui. On ne touche pas aux knedliks.
Non, on ne touche pas aux knedliks. Je veux pas me faire des...
Touchez pas à mes knedliks.
Non, ici c'est ça.
Sacré.
C'est sacré. Ouais, bah, sacré. Avec la bière, il y a des choses qui font pas.
On déconne pas avec ça.
Ah, non, je veux dire, ça fait partie des plats de base et pour beaucoup de Tchèques, c'est des plats d'enfance encore. Donc ça reste.
C'est une madeleine.
Ouais, c'est ça. Et moi, mon fils, par exemple, chez sa grand-mère, il mange des knedliks et il aime ça. Donc j'ai pas réussi à y prendre goût, mais. Mais bon, je ne désespère pas.
Le goulash avec, enfin, j'en ai mangé une hier, c'est très bonne. Hein.
Bah, le goulash, c'est effectivement, c'est quand c'est bien fait, c'est un ragoût. Et les plats de base, donc on dit c'est le goulash, c'est le jarret de porc, et c'est ce qu'on appelle la svitchkova. Au départ, c'était un filet de bœuf, maintenant ils le font avec une viande un peu moins chère, mais bon, un filet de bœuf complètement archi-cuit, cuit dans une sauce aux légumes, et qui est servi aussi avec...
C'est pas dommage?
Ah ben, moi, pour moi, c'est dommage, mais pour les Tchèques, ça fait partie des plats du dimanche. C'est le gigot du dimanche pour le Tchèque. Hein. Donc, c'est quand c'est bien fait.
C'est pour ça que vous proposez un roast beef bien saignant.
Ah oui, moi, je vais ici. Et ici, d'ailleurs, c'était au début, c'était ça. J'ai quelques cuissons pour le steak. Et...
Bien cuit, non. Non, monsieur, je ne vous servirai pas de viande bien cuite.
Même si là aussi, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, parce qu'il faut quand même les clients s'en rendent, comme on dit. Hein. Mais il est vrai que là aussi, les Tchèques, chez moi, ceux qui viennent depuis le début, ont aussi évolué, ont appris. Au début, ils ne voulaient pas ce médium rare. J'ai goûté, si c'est pas bon, je vous le refais cuire. Et bien, finalement, ici.
It was the summer of 1997. Had a bike in one hand and a girlfriend in the other. Had a chance to ride to Prague, so the girl twisted my arm. 3,000 miles from my hometown to the border. I can smell the wild cooking on the fire. And instead we drove to the sea, my girlfriend, my broken arm and me. Wanna go to Prague, wanna go to Prague. Let's go to Prague and let's never be the same. I wanna go to Prague, I wanna go to Prague. Let's go to Prague and let's never be the same. And if we get run over by a 10-ton truck, but at least we did not train adventure for it. Collecting shells instead of traveling stories. There are people here, but not a friend I see. And at night we sleep in a bed. Forget the Milky Way, forget the guitar. Forget the girlfriend. Wanna go to Prague? Wanna go to Prague?
Au bistrot à table avec Jean-Charles Berger que se terminera ce suivi le guide pragois. Retrouvons une nouvelle fois Miroslava dans le quartier de l'Etna. En un mot, pas comme le volcan, c'est aussi l'occasion d'évoquer l'histoire du XXe siècle.
Suivez le guide à Prague.
Si on parle un peu de ton histoire familiale, Miroslava, est-ce que tes parents, par exemple, ont vécu le printemps de Prague?
Bien sûr, mon père a vécu le printemps de Prague. Il était étudiant de la faculté des mathématiques et physique à l'université Charles.
À Prague,
c'était aussi très marquant cette époque pour mon père parce que mon père a perdu son père dans cette année. Mon grand-père, je n'ai jamais vécu mon grand-père.
Tu n'as pas connu.
Je n'ai pas connu mon grand-père parce qu'il est mort dans cet an, 68.
Après, c'est lié aux événements ou c'est...
Peut-être partiellement, oui, c'est un peu secret de la famille.
Ah.
Parce que, oui, mais bon, mon grand-père est mort dans une institution.
Un hôpital psychiatrique?
Oui, on pourrait dire comme ça, dans un hôpital psychiatrique, parce que Et je pense qu'il était ouvrier. Dans les années 50 et 60, il était membre de la partie communiste. Il a croyé beaucoup dans cette idée des communistes.
Comme d'autres en France croyaient. On se souvient d'Yves Montand qui, jusqu'à ce qu'il se rende en Union soviétique, croyait au communisme. Puis une fois qu'il est rentré d'Union soviétique, il n'y croyait plus.
Et j'ai l'impression qu'il s'est déceptionné par cette entrée des tanks.
Des chars russes à Prague.
Pendant le printemps de 68, Prague, en août 68. Et vraiment, on a le document de sa mort de cette institution de santé psychique. Il est mort. Et mon père était jeune. Il a étudié à cette faculté de mathématiques et physique. Il faisait ses examens finaux. Et ma grand-mère n'a pas lui dit de la mort de son père parce qu'elle a voulu...
Que ça ne perturbe pas pour les examens.
Exactement.
Hey Jude, soldati plash, oči pali a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dar, co náš písniček pár, i půjdou s tebou. Hej, Jude, že má tě rád, to se v písni zpívá na rubu všech písní, kde končí rým, tam prý leží stín, který nám zbývá. Svět je krásnej, svět je zlej, hej Jude, věd v něj, do pínku nám dal.
Je Jan Palach, on dit Palach, non?
Comment? Palach. Palach, Jan Palach.
Jan Palach. Par les plus jeunes aussi, considéré comme un héros national.
Maintenant, oui, comme je comprends la situation, pendant l'époque socialiste, les communistes ont essayé de faire toutes les choses possibles
pour minimiser, pour qu'on n'en parle pas,
diminuer sa importance, pour parler pas positivement de
jusqu'à
lui.
La fin des années 80.
Exactement. Après, dans les années 90, la situation a changé. Maintenant, oui, on enseigne de Jan Palach comme un héros national.
Et à l'endroit où il s'est immolé.
Place Venceslas, à côté Venceslas, de voilà. La façade des musées nationaux. Il y a un monument.
Il y a un monument, hein, c'est
il
ça.
Il y a un monument.
Mais le monument n'existait pas...
Je pense que le monument est fait pour lui après l'année 2000.
C'est ça. Donc encore une fois que tout ce bloc de l'Est s'est écroulé. Je lis ce qui est écrit sur les façades. Donc il y a des véganes ici. Hein. Stop eating animals.
Oui, oui. Personnellement, je ne suis pas végan, mais j'ai eu une époque... que j'étais, mais il y a surtout parmi les gens jeunes, gens qui s'opposent aux grandes exploitations des animaux. Bien sûr, je suis à faveur, par exemple, des négoces bio. Et on peut acheter même de viande biologique, organique. Mm-hmm. Et j'ai la confiance que viande achetée dans ce type de négoce, c'est des animaux qui n'ont pas souffert autant. Ils ont été mis en traité. Mais bien sûr, il y a aussi des végans, des végétariens. Il y a des restos végétariens chez nous.
Donc ça, c'est, voilà, c'est comme partout.
Oui, on parle de la village mondiale au global. Ici, voilà, Mimo Film, 12, ça, c'est aujourd'hui.
12 juin.
Dans une semaine, on va filmer dans cette rue. Bien sûr, il y a les façades des maisons. Ici, les cinéastes peuvent faire ici des films.
Des films d'époque.
Début du 20e siècle, fin du 19e siècle. On paye très peu d'argent parce que c'est tout ici comme à l'époque. Mm-hmm. Alors, il y a le signal pour cette journée 12 de juin.
Ouais.
Je le dois dire, je le trouve ici, dans ce quartier, souvent. Ici, seulement après, les cinéastes peuvent arriver avec ces voitures, mais pas les autres. Les autres...
Ah, c'est ça, le 12 juin. On tourne, aujourd'hui, on tourne des films à Prague. Moi, je me souviens d'une époque où on ne pouvait pas tourner à Prague. Et le film adapté de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être...
C'est des années 80. Ouais. Des années... C'était filmé à Lyon. Je pense.
Effectivement, on ne pouvait pas tourner à Prague. À l'époque, c'était compliqué pour Philippe Kaufmann, le réalisateur. Et du coup, on a recréé Prague à Lyon.
Et après, j'ai vu ce film. Je ne connais pas ce film pendant beaucoup de temps. Je l'ai connu peut-être dans l'année 2005. Un ami de moi, qui est catalan, qui a travaillé à Paris, m'a présenté ce film. Et j'ai vu ce film la première fois avec lui à Paris.
Qui raconte aussi le printemps de Prague. Mm-hmm. Et avec Juliette Binoche et Daniel Deleuze. Lewis.
Exactement.
Et écrit par Milan Kundera, qui n'est pas né à Prague, parce que j'ai vérifié, il est né à Brno. Hein.
Il est né à Brno.
Mais il a vécu ici aussi.
Il a vécu ici à Prague.
Et il est parti...
À France. Et je pense que ses derniers livres, il a déjà écrit directement en français, pas en tchèque. Le premier livre de lui était écrit en tchèque, après traduit en français. Il visite notre pays seulement peu. Peut-être il est plus connu à l'étranger.
En République tchèque?
C'est possible. Ici, je pense qu'il est connu par les artistes, par les intellectuels. Mais si tu demandes tchèque moyen, quel est le livre plus important tchèque, plus connu, il va mentionner Schweik, les aventures de
Schweik,
que Kundera. Et c'est peut-être la division entre les gens normaux et les intellectuels.
Le fameux conte de la
Malastrana, oui. De Neruda. Oui, c'est aussi intéressant. C'est enseigné à l'école, Jan Neruda. Oui, c'est aussi enseigné à l'école beaucoup. Mais peut-être ce ne serait pas au premier lieu, ce serait Schweik. Quand tu demandes, la plupart vont te dire que c'est ça, ce livre et ce film après. Parce que beaucoup de fois, la personne voit plutôt le film que le livre.
Et par exemple aussi Mozart. Alors bien sûr, Mozart, il est pas du tout originaire de Prague. Mais en revanche, c'est à Prague qu'a été créé Don Giovanni. Don Giovanni est lié à Prague, l'opéra.
C'était ici à Prague que Don Giovanni était présenté la première fois. C'était la première de cet opéra,
c'est ça, voilà.
Dans le théâtre des États. Dans cet temps appelé le théâtre des contes Nostitz. C'était le théâtre de cet conte aristocratique.
J'ai failli me casser la figure, c'est pour ça que j'ai dit un gros mot.
Cet théâtre existe encore, quasi intact, à l'intérieur. Si vous avez la chance de visiter le théâtre appelé aujourd'hui Starovské divadlo, théâtre des États, où il y avait la première de Don Giovanni, conduite par Mozart, vous le pouvez faire. Ici, par exemple, il y a le Malé Černé. Malé Černé, c'est un petit boutique, un second hand, on appelle second hand le vêtement de la deuxième main.
Vêtement d'occasion, oui.
D'occasion. Malé Černé, ça veut dire comme la petite robe noire. Et ça doit être le magasin d'occasion avec les vêtements sélectionnés. Mais quand même, avec des prix plus bon marché.
C'est pas cher, c'est moins cher.
Et comme ça, il y a plusieurs... Ici, à côté, en fait, il y a un autre négoce, aristocrate, où tu peux trouver des vêtements même qui ont l'âge de 100 ans, peut-être des années 20, des années 30, la robe des femmes. Parce que je pense que beaucoup de ces bobos préfèrent, ils cherchent cette vintage.
Ah, vintage, oui, c'est ça, on dit ça en français. Alors, quand on regarde ces immeubles, mais il y en a énormément. Enfin, on a déjà pris, là, on redescend la rue, mais il y a quand même énormément de très beaux immeubles dans le quartier, non?
Ici, à l'Etna, oui, c'est le cas. Vraiment, on note qu'au début du XXe siècle, avant de la Première Guerre mondiale, surtout, il y avait des gens
riches. C'est le développement, hein.
Qui ont, oui, on comptait avec des clients, avec les gens qui vont payer le loyer, ici, d'argent. C'est différent après à Holešovice. Je pense qu'on pourrait prendre le tram pour aller à Holešovice, ouais. Pour avoir aussi autre air, pour pouvoir comparer les deux, l'Etna et Holešovice.
Si jamais tu m'entends, si jamais tu me vois, auras-tu un instant un peu honte de toi? Si jamais tu m'écoutes, jamais tu me crois, je te jure qu'il m'en coûte, mais je pars cette fois. Oh, Prague, qu'as-tu donc fait de moi ?
la découverte de Prague 7 avec Miroslava dans un prochain Suivez le Guide. À Prague 6, rue Marakova, nous attend le seul chef français pragois, Jean-Charles Berger, dont le prénom s'intègre parfaitement à la capitale tchèque, puisqu'il fut porté par l'empereur Charles IV, qui posa au XIVe siècle la première pierre du fameux pont Charles et fonda l'université de Prague.
Suivez le Guide en République tchèque.
L'offre de restauration, effectivement, c'est beaucoup diversifié, mais peut-être que dans les campagnes, je ne sais pas, on reste sur les plats traditionnels.
Oui, ben là, dans ce qu'on appelle les hospodas, c'est-à-dire les restaurants dans beaucoup de petites villes, de villages de province, bon, ben, ça reste. L'offre s'améliore, mais quand même, bon, principalement, c'est les plats traditionnels.
Ceux que vous avez cités.
Exactement.
Et avec ça, on se prend une bière.
Une ou plusieurs.
Pivot.
Ouais, pivot. Une bière normale, c'est le demi-litre.
Ah oui, donc 0,3, c'est petit joueur.
Ouais, on appelle ça une petite bière.
Petite bière.
Ouais, ouais. Et les Tchèques, je connais pas beaucoup de Tchèques qui ne boivent qu'une seule bière. C'est quand même, ça suit d'une deuxième ou d'une troisième. Hein, et ça, c'est normal.
Bon, mais il y a aujourd'hui, le vin séduit aussi.
Et le vin tchèque, il y a une tradition de vin tchèque, hein, donc la Moravie, hein, qui se trouve au sud-est de la République tchèque. C'est une région vinicole, avec des vins qui sont plutôt sucrés, ou voire demi-secs. Donc il faut aimer, c'est des vins de glace.
Vous avez du foie gras, donc ça tombe bien.
Oui, mais moi, ils font aussi des vins rouges, mais on est dans un climat plutôt d'Europe centrale, donc on ne peut pas avoir tous les types de vins.
Même si ça change, le climat.
Oui, malheureusement, oui. Mais aussi, les vins tchèques sont quand même relativement chers. Si bien que moi, dans mon restaurant, je peux proposer du vin français. Il n'y a pas une trop grosse différence. Et les vins de qualité tchèque sont des vins qui sont relativement chers. Ouais.
Jean-Charles, vous regardez. Alors les Français aussi, ils ne le savent peut-être pas, mais qu'on peut venir manger chez vous une cuisine française à Prague, et les touristes ont parfois envie de varier un peu leur menu. Et en venant chez vous, on va retrouver vraiment des classiques de la cuisine et des plats de bistrot et de la cuisine française. Puis je me dis, vous avez une carte très très diversifiée. Hein.
Et ouais, je l'ai dit, diversifiée. Au début, j'en avais beaucoup moins. Mais là aussi, les gens eux-mêmes me demandaient pourquoi tu ne ferais pas ceci ou tu ne ferais pas cela. Ou alors je faisais le week-end, par exemple, où pendant une semaine, je me dis, tiens, on va faire ce plat. Et les gens, ah ben, si on pouvait le garder à la carte.
Ah oui, alors à chaque fois, vous gardiez ce que vous aviez apporté un week-end.
Ah ouais, pas à chaque fois, mais les grands hits parades, on les garde. Bon, maintenant, je suis au maximum de mes capacités, oui. Donc je rajoute pas de plat si je rajoute.
Vous retirez.
Je dois retirer.
Ah oui, parce que quand même, si on veut avoir des produits frais, on peut pas avoir une carte, parfois comme dans les restaurants asiatiques, qui fait tout un livre entier.
Mais après, il y a une question d'organisation aussi. C'est là où le fait d'avoir quelques connaissances en cuisine, ça permet aussi de s'organiser en cuisine, et en fait, de gérer les frigidaires, le garde-manger. C'est le gros travail du cuisinier, en fait. Oui.
Alors, il y a des huiles, mais j'ai pas trouvé de poisson, cela dit.
Non. Et ça, c'est fait exprès, en fait.
Ah.
Là, c'est fait exprès. C'est non pas que j'aime pas le poisson.
Quoique, il y a du poulpe. Hein.
Mais le poulpe, c'est pas du poulpe, c'est calamar.
C'est du poisson. Calamar, oui.
Le poisson, là, je le fais, effectivement, là, je le fais uniquement sur certains week-ends. Puisque pour le poisson, ça me demanderait des frigos supplémentaires et je n'ai pas la place.
Ouais.
Tout simplement, je n'ai pas la place.
Vos clients, amis, voisins savent. Jean-Charles, il y a du poisson ce week-end, on va aller voir Jean-Charles.
Ouais, et puis il y a les réseaux sociaux, en fait, et donc c'est ma femme.
Il y a du poisson.
Voilà, venez.
Poisson frais est arrivé.
Le poisson est à table, donc les gens viennent pour ça.
Jak mění písně každý rok, od výplaty do výplaty, a jinak sami.
Votre top 3, si on fait votre hit parade, le hit parade à table. Bon, on compte pas la soupe dans le hit parade, on va pas la compter.
Ah, on compte pas la soupe.
C'est une tradition le potage en entrée.
En République tchèque, le midi, je pense que 95% des gens mangent une soupe en entrée. Ça, c'est une tradition.
J'ai vu un client arriver et il a attaqué une soupe.
Pratiquement tout le monde fait ça. Et pour moi, au départ, au début, c'était même un problème parce qu'en France,
on
ne fait pas autant de soupe que ça. Là, il faut que je change de soupe. J'ai au moins une trentaine de soupes différentes.
Toute l'année, les soupes
toute l'année.
Même l'été.
Même l'été.
Ou des soupes froides
De temps en temps, des froides, mais on préfère les chaudes quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et donc, à la soupe toute l'année. J'ai vu soupe de châtaigne, beurre, etc. Mais il y a.
Ah, on trouve des soupes. Il faut trouver des nouvelles idées pour amener des nouveautés comme ça le midi.
On peut varier, cela dit, on peut inventer avec les soupes. Hein. Voilà. C'est sans fin pratiquement. Hein.
Surtout que maintenant, on a accès à beaucoup plus de légumes, donc ça permet de créer différentes soupes. Quoi.
Ouais. Déjà, si on se lance dans un resto français, français et qu'il n'y a pas de soupe, c'est déjà mal barré.
Je pense que c'est
fini.
C'est pas possible. Non, c'est pas possible.
Donc l'aventure s'arrête là.
Quand j'ai ouvert mon restaurant, ce que je voulais, c'est avoir des clients tchèques. J'ai fait en sorte que ça puisse plaire à des tchèques. C'est ça, le but du jeu, c'est quand même d'avoir un restaurant, c'est que ça marche. Je ne cuisine pas pour moi, je peux le faire à la maison. Donc là, c'est plus pour cuisiner pour les autres.
Faire une cuisine très, très inventive, avec des mélanges totalement inédits, et après que vos amis du quartier ne viennent pas, ou vos clients du quartier, ça sert à rien.
Non, ça n'a pas de sens. Prends un bistrot familial, comme on dit.
Alors, votre hit parade maintenant. Alors, on remontons peut-être troisième, deuxième et premier.
C'est difficile parce que ça change un peu quand même selon la saison. Mais je pense que le confit de canard... Allez, il va se mettre en troisième position, le confit qui est fait maison.
Médaille de bronze, le confit de canard.
Confit de canard que je fais.
Que vous faites vous-même. Vous n'ouvrez pas la boîte.
Non. Comme le foie gras, comme presque tout ici d'ailleurs. Après le confit de canard, je dirais le roast beef.
Ah, le fameux roast beef.
Roast beef saignant, qui est vraiment saignant. Donc,
ça, c'est bien.
Ça surprenait au début, mais là, ils s'y sont faits.
Avec une mayonnaise à la betterave rouge, c'est ça?
Oui, ça dépend en fait. Là aussi, je change. Là, c'était la saison de l'ail des ours.
Très parfumé.
Très parfumé. Ensuite, on fait des fois à la betterave, à la ciboulette, à l'ail.
Vous le servez froid?
Il est froid avec des pommes de terre sautées, puisque là aussi, je ne fais pas de frites. Et là aussi, tout le monde me dit, mais pourquoi il n'y a pas de frites dans un restaurant français?
Parce que la frite est belge.
Exactement, la frite est belge. Donc, moi, je ne veux pas voler des spécialités à nos amis belges. Et en première position,
médaille d'or,
le magret de canard. Le magret de canard qui lui aussi servi maintenant, il est médium rare.
Donc rosé.
Plus saignant que rosé. Et là, je l'ai mis avec une sauce aux fruits rouges, donc parce que c'est là aussi, les Tchèques aiment bien le
mélange. Le sucré salé.
Le sucré salé, exactement.
Ça, c'est plus dans la culture.
Exactement, ça, c'est une... Même dans la cuisine tchèque.
Les Allemands aiment bien aussi, donc...
Ouais, sucré salé.
Et ce sont les Français qui, parfois, sont réticents.
Ouais, moi, j'avoue que c'est pas mal. C'est pas ma tasse de thé.
Plein d'autres choses. Il y a des quiches. Moi, je viens de Lorraine. Il y a des quiches.
Ma mère est là.
Elle est d'où?
Un petit village de Rethel.
Rethel, en Moselle. Moi, je connais bien. C'est près de Thiers-Clément, à côté de 10 km de chez moi.
Et donc, la quiche Lorraine. Alors, ça fait partie des petits plats que j'ai ramenés de nos repas familiaux. La quiche Lorraine, je pense que je mangeais ça une fois par semaine. Et c'est un truc que j'adore. Et quand je vais chez ma mère, je fais toujours une quiche Lorraine.
Sinon, des cuisses de grenouille. Alors, des cuisses de grenouille à l'alsacienne, je suppose que ce sont les cuisses de grenouille au Riesling.
Exactement, ouais. C'est au Riesling, c'est une sauce un peu citronnée à la crème.
Et alors qu'on prépare bien davantage les cuisses de grenouille à la provençale. Hein.
À la provençale ou la persillade. Mais là aussi, je voulais pour que ce soit un petit peu plus en sauce. Donc ça fait un peu, c'est un peu plus copieux pour un restaurant. Pour les gens ici, ça permet d'avoir un petit truc en plus.
Et donc les Tchèques aiment les cuisses de grenouille, les escargots et les tripes. Vous pouvez vous lancer dans tout ça.
D'abord, les Tchèques mangent des tripes. Hein. Ici, ils ont une soupe. Qui s'appelle la dritschka, qui signifie une gifle. C'est une soupe, c'est une soupe de tomatée en tout cas, avec des tripes à l'intérieur. Pareil, les escargots, ça restait dans la cuisine tchèque au moment de ce qu'on appelle la Première République. Donc c'est entre les deux guerres mondiales, c'est la seule période véritablement où la Tchèque n'a pas été envahie, on va dire. Les escargots faisaient partie de la tradition. Et à Noël, beaucoup de gens, surtout les personnes âgées, viennent pour manger des escargots. Ça a toujours été une tradition en République tchèque.
Chez nous aussi. Hein.
Ouais, chez vous aussi. Mais je veux dire, c'est étonnant ici que, en fait, ce soit aussi le cas. Et pour la petite histoire, là, en France, les escargots sont protégés. Donc il n'y a presque plus de cueillettes. Hein, parce que, au moins, c'est très limité. L'un des plus grands producteurs d'escargots, je vous le donne en mille.
C'est la République tchèque.
C'est la République tchèque.
Escargot dit de Bourgogne.
Dit de Bourgogne, et souvent en fait élevés en République tchèque, et qui sont renvoyés en France pour être préparés, qui sont mis en conserve et qui prennent l'appellation escargot de Bourgogne.
Et c'est pas un peu pareil pour les cuisses de grenouille d'ailleurs, elles viennent aussi, non?
Ah, les cuisses de grenouille viennent pas de République tchèque, mais effectivement,
centrale.
Non,
elles viennent d'où?
Le plus grand producteur, les deux plus grands producteurs de cuisses de grenouille, c'est l'Indonésie et la Thaïlande.
Ah oui, donc elles viennent d'Asie.
Ouais, elles viennent d'Asie.
française. Sur les tables françaises, il y a peu de grenouilles françaises.
Non, mais là aussi, la réglementation est très stricte. Donc, c'est les espèces protégées.
Finalement, vos clients tchèques, non, ils ne sont pas si difficiles à séduire.
Ah non, non, non. Et je dirais, si comme moi, je suis français et je suis dans le restaurant, ils aiment que l'accueil soit authentique.
L'ambiance française, là, on est en terrasse, mais à l'intérieur, on est plus vraiment dans une ambiance bistrot parisien.
Un bistrot parisien.
Lyonnais.
Voilà, exactement. Ou le soir, ou quand il y a beaucoup de monde, bah, c'est bruyant.
Au coude à coude.
Ouais, des fois c'est
pas tant que ça quand même. Mais...
Non, on a la place, mais ouais. Quand c'est plein et que le restaurant est comme il est un peu en sous-sol, donc on a cette ambiance.
C'est un peu caveau.
Ouais, caveau, et puis les gens boivent un petit
caveau,
peu.
Caveau, pivot.
Ouais, exactement. Non, je ne sors pas de bière.
Ah non, c'est pas de bière du tout.
Non.
Ah, ouais. Ah non, vous ne la servez pas.
Non, à part une bière en bouteille pour vraiment ceux qui ont un problème avec le vin, mais en fait non, parce que servir de la bière, de la bonne bière, ça demande beaucoup d'entretien, de service.
Le fût,
faut nettoyer.
Et de débit, il faut un débit bière.
Voilà, un débit. Et puis.
Il y a plein d'endroits où la boire, vous me direz.
Exactement. Les gens savent qu'il n'y a pas beaucoup de bière, donc c'est pas un problème. Et ça me dérange absolument pas. Puisqu'en France, c'est pas notre spécialité, la bière. Même si ça devient de plus en plus à la mode.
Alors, Jean-Charles, vous maîtrisez, vous parlez bien la langue tchèque. Ça a été facile à apprendre. Maintenant, bon, votre épouse est tchèque, c'est l'amour qui vous a fait apprendre le tchèque.
Ah, effectivement, je ne sais pas si c'est l'amour qui m'a fait apprendre le tchèque, mais en tout cas, le fait que ma femme ne parle pas le français...
Ça n'a pas été à double sens. Non. J'apprends le tchèque, tu apprends le français.
Non, puisqu'elle dit qu'elle est meilleure professeure qu'élève et que moi, je suis un bon élève. Donc, mais c'est une langue qui est très difficile, surtout pour les Français, où on a beaucoup de choses qui sont... Le nom est masculin chez nous, il n'est pas forcément masculin en tchèque, mais souvent, il est même féminin. Et comme les tchèques, on décline en 7-4 déclinations, qui dépendent évidemment du genre, ça devient très compliqué. J'ai mis énormément de temps à apprendre. Les 6 premières années, c'était vraiment le base, merci, au revoir, bonjour. Et petit à petit, surtout avec le restaurant que j'ai eu ici, où j'étais de plus en plus en contact avec les gens, parce que j'étais moins en cuisine et plus en salle, automatiquement, je me suis mis à parler. Et là, maintenant, je dirais, je parle pas couramment, parce que je pense que c'est presque impossible. Je peux mener une discussion.
Il a fallu apprendre aussi tout le vocabulaire culinaire, les produits, etc., en tchèque.
Oui, alors ça, c'est en revanche, c'est relativement facile, parce que c'est... il n'y a pas 10 manières de dire...
Quiche Lorraine,
c'est Quiche Lorraine, ça c'est bon. Et j'ai gardé dans mon menu, tout est écrit en français. Je traduis bien sûr en tchèque. La Quiche Lorraine, je garde le mot Quiche Lorraine. Et même beaucoup de mes clients en tchèque qui, eux, ne parlent pas le français.
Mais ça veut dire Quiche Lorraine.
Ouais, Quiche Lorraine ou Maquette Canard. Ou c'est même presque un petit peu la rigolade ici pour eux. C'est d'essayer de lire le plat en français, cuisse de grenouille. Si en français on dit cuisse de grenouille, et si on le disait en tchèque, ce serait Suisse. Grenouillet. C'est aussi un travail de prononciation pour eux qui n'est pas évident, mais au moins comme ça, on a de quoi partager.
Donc vous êtes heureux, Jean-Charles, à table, ici, dans ce quartier de Prague 6.
Et ensuite, dans tous les quartiers, enfin dans Prague, il y a l'arrondissement, mais ce n'est pas l'arrondissement le plus important. C'est les quartiers ont un nom. Ici, on est dans le quartier Bubenec. Juste à côté, c'est Davidsee.
Ah voilà, c'est ça que j'avais noté, mais j'aurais pu à m'en lire. Davidsee. Voilà.
Nous, on est à la limite de Bubenec, le grand quartier qui dirige tout ça, c'est Radchanska. Et donc, non, je suis très très content. Ça va faire 10 ans ici. Et pour fêter les 10 ans, la rue va être fermée.
Ça va être une espèce de fête des voisins.
Ouais, une fête des voisins, effectivement, où on va fermer une partie de la rue, elle sera piétonne. Et on va célébrer ça avec nos voisins.
Comment dit-on bon appétit ?
Dobro kutje.
Dobro kutje.
Ouais, Dobro kutje,
bon appétit. Djakouyo.
Djakouyé.
Djakouyé, oui ou je...
Non, Djakouyé.
Djakouyé. Merci beaucoup, Jean-Charles.
Merci.
Vy máte autobus, my máme metro. A co je u vás cool, je u nás retro. Tohle je Praha. Tohle je Praha.
Et donc, Djakouyé, Miroslava Eliášová et Jean-Charles Berger. Suivez le guide à Prague, organisé par l'Office national tchèque de tourisme à Paris. Merci Barbara Herman.
Není zač, s radostí. De rien, c'est avec plaisir.
Des guides conseillers, le petit futé République tchèque et Prague. Réalisation Roman Feocchio. Le site internet tchèquetourisme.com et vous trouverez facilement le bistrot à table via sa page Facebook.
Brzy na viděnou v Praze. A bientôt à Prague.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.
Qu'est-ce que l'absence ? Bien plus qu'un manque, n'est-elle pas l'expression de notre condition humaine ?
Ces questions, nous les abordons dans quelques instants avec Anne-Claire Desesquelles, philosophe et musicienne.